Vous écoutez
RMC. RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul sur tous les, de tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol.
J'adore ce jingle. La crise de la soixantaine tous les samedis avec Christophe Cessieux qui viendra saluer une performance, piquer sa crise. À vous de me dire ensuite les GG si vous pensez que c'est dû à la crise de la soixantaine ou non. Christophe a largement raison de nous en parler. Christophe, tu nous proposes quoi aujourd'hui?
Alors moi je vais vous parler de cette semaine européenne où on s'est régalé. Alors c'est vrai qu'on s'est plus trop donné de la tête hein, avec cette nouvelle formule. Ça commence à 18h45, l'heure de l'apéro ou des devoirs à faire aux gamins ou du bain. Ça se poursuit à 21h, on a même plus le temps de finir son dessert qu'il faut déjà se retrouver devant la télé. Et ça finit à minuit, juste le temps d'aller roupiller pour le lendemain être en forme pour une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Après il faut dire quand même qu'on se régale avec nos clubs depuis le début de la compétition. Ça tombe de partout, des perfs à plus savoir qu'en faire, des cadors qui repartent à la maison, le museau bas et la queue entre les jambes. Mais pourtant, je croyais que notre Ligue 1 ne préparait pas assez bien nos clubs à la grande Ligue des Champions. Et que c'est pour ça, Denis, que le PSG l'avait pas encore gagné. Bah oui, c'était logique. Alors je veux bien, moi, que le championnat ne prépare pas assez bien le PSG, mais les autres, en revanche, ils touchent leur bille en C1. Monaco, par exemple, qui d'entrée fait mordre la poussière au Grand Barça. Grand Barça qui est quand même pas un très bon souvenir pour les supporters du PSG. Est-ce que vous imaginiez ça une seule seconde? Eh ben, pas moi. Et puis, pour pas faire de jaloux et faire enrager ce rageux de Javier Tebas, Blatipak, cette semaine, c'est le Real qui est tombé. Rien que ça, face à Lille, le grand Real, invaincu depuis le mois de janvier dernier et qui, au bout de 36 matchs, perd contre Lille. Ça, on n'y était pas préparé et je dois dire que ça fait quand même le plus grand bien à notre orgueil de coq gaulois de voir ses équipes se faire rouler dans la farine par nos petits clubs de Ligue 1. Et puis quel bonheur de voir le sourire sur le visage de ce bon Bruno Genesio qui, avec sa bouille et son air de pas y toucher, est en train de se transformer en dompteur de fauves, en tombeur de cadors. Et si on s'est longtemps moqué de son surnom Pep depuis qu'il a battu le grand Guardiola, il va falloir arrêter de se gosser d'autant que on lui a trouvé un nouveau surnom. Désormais, appelez-le Carlo. Carlo Genesio. Ça sort bien, non? Ça pourrait donner envie à des grands clubs français de le recruter. Bah oui, un coach avec un nom italien ou espagnol, ça a plus de gueule et je suis certain que Nasser, le patron du PSG, pourrait s'y intéresser, pourrait tomber dans le panneau. Alors évidemment, Eric Roy, avec un blast pareil, ça va être plus compliqué de le faire passer pour un Rital. Ok, mais vous avez regardé le classement de Brest en Ligue des Champions. Ils sont deuxièmes, les Bretons, devant tous les cadors. 6 points en 2 matchs. Plus de 4 millions de primes UEFA dans la poche. Encore un ou deux matchs comme ça, ils vont dépasser le budget de l'OM et du PSG. Bon, faut pas s'emballer, vous me direz. Ils n'ont battu que des clubs autrichiens. D'accord, mais ça compte pareil que si tu bats le Barça, le Real ou Arsenal avec cette nouvelle formule. Enfin, Arsenal, ceux-là, on les a pas... Hein, Denis, on les a battus, plus. Brest, donc, deuxième de Ligue des Champions et qui, au lendemain de l'exploit, laisse son coach venir discuter le bout de gras chez Rotten pendant un quart d'heure et de blaguer avec Pascal Olmeta, racontant quelques hauts faits d'armes aux gardiens corse lorsqu'ils jouaient ensemble. Écoutez, c'était dans Rotten sans flamme.
Ouais, Eric, tu peux dire, tu n'as pas connu de gardien comme moi depuis.
Je te rassure, comme toi, j'en ai jamais connu. Oui.
C'est vrai.
Écoute, non, alors Bizot, il est beaucoup plus pragmatique que toi.
Ah, c'est gentiment dit, pragmatique.
Je vais vous raconter, les gars, parce qu'il faut raconter ça. Quand il y avait un ballon dans la profondeur, oui, à Lyon, donc Marco Bizot, quand il y a un ballon à la profondeur, il anticipe, il met un grand coup de pied dans le ballon et puis il envoie dans la tribune, vous voyez. Donc là, on est tranquille. Pascal, lui, quand le ballon arrivait à la profondeur, il contrôlait le ballon. Et là, les attaquants, ils arrivaient. Comme ils avaient peur, ils s'écartaient un peu et puis ils partaient. Ils partaient dans sa tenue de balle chaloupée, ils driblaient un ou deux, trois joueurs. Bon, ils défendaient pas beaucoup parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils lui pètent un tacle, voilà, ouais, qu'ils s'écartaient. Et puis nous, comme je te dis, on courait tous dans le but, inversement, parce qu'on se disait, si jamais il perd le ballon,
on est mort.
Il faut quand même qu'on assure.
Voilà, discussion à bâton rompu. Moi, c'est ça que j'aime dans le foot. On trouve parfois encore des mecs normaux qui pètent pas plus haut que leurs fesses, passionnés par leur métier et qui répondent aux interviews sans se prendre la tête, sans envoyer bouler, pour pas dire autre chose, des journalistes qui osent poser des questions sur leur schéma de jeu. Alors peut-être qu'on n'est pas au niveau, pas capable de comprendre les tactiques dignes de la NASA, de l'ingénieur en chef Luis Enrique. Oui, peut-être bien, mais moi je vous le dis heureusement qu'il existe encore dans ce milieu des mecs comme Roy, des mecs comme Genesio et pas que des fiefs prétentieux à la mode espagnole.
Merci beaucoup,
bravo,
Christophe.
Bravo, Christophe.
Cessieux.
Bravo.
Alors, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec Christophe ou c'est dû un petit peu à la crise de la soixantaine?
Non, on est complètement d'accord.
Écoute, après la sortie de Luis Enrique, je suis 10 fois plus d'accord. Non, mais ça...
Il a complètement raison.
Il y a un tel mépris parfois que ça fait du bien, c'est frais. Et puis, comme il le dit, c'est mon enfant d'en rien d'écouter ces histoires. Et puis, c'est parti du sport.
C'est le lendemain du match, son club l'autorise à aller discuter pendant un quart d'heure avec des journalistes, avec des copains. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre. C'est un bon esprit. C'est, on se marre, on parle tactique.
Le problème de la fonction d'entraîneur, ça rentre parano complètement. Et tu le vois, Luis Enrique, c'est un dingue, quoi. Enfin, tu vois, il n'est pas comme nous. Il est habité.
Mais il est passé de l'autre côté.
Oui, il est passé de l'autre côté. Alors qu'Éric Roy, il est super. En plus, c'est un copain en plus, mais il est super dans tout ce truc. Genesio, pareil.
Après, les défenseurs de Luis Enrique pourront toujours vous rétorquer. Et je te lance là-dessus, Marion. Oui, mais ils n'ont peut-être pas la même pression que Luis Enrique au quotidien. Et ils n'ont pas non plus.
Je pose la question. Éric Roy n'a pas la pression. Alors,
Éric Roy, il a la même pression.
Évidemment, il est là, il arrive. Il n'a plus été entraîneur pendant des années. Il arrive, il est nommé à la tête de Brest. Il arrive à qualifier Brest. Je ne crois pas qu'il n'avait pas la pression dans les dernières journées de championnat, l'année dernière, quand ils étaient en passe de se qualifier.
Même en début de saison.
La pression, elle est quasiment identique.
La com de Luis Enrique, elle est indéfendable. Et je suis désolée d'à chaque fois rétorquer, et ça fait depuis un moment, qu'on a ces débats, et à chaque fois que je dis la même chose, de rétorquer systématiquement aux journalistes qui n'y comprennent rien, qui sont complètement débiles,
et de toute façon,
exactement, et qu'il n'y a que lui qui, en, comme le dit Chris, en bon ingénieur de la NASA, qui est capable de prendre sa tactique. S'il est si fort que ça, comme le disait mon père, tu dois être capable d'expliquer très simplement quelque chose de très compliqué. Donc, comme on est complètement débile, qui nous explique très simplement ce qui fait de très très compliqué. Mais je suis désolée, tu ne peux pas systématiquement te cacher en disant « Ah non, mais moi je suis un génie absolu, vous êtes compris absolument rien à rien, donc c'est même pas la peine, je ne me rabaisse pas à votre niveau, c'est inaudible, inentendable. » Et heureusement qu'on a des entraîneurs français, et tu l'as dit, Chris, très justement, Bruno Genesio. Alors oui, c'était une finale des champions un petit peu particulière pendant la finale Covid, mais il a quand même tapé City de Guardiola, en le battant tactiquement là-dessus, et c'est un fait d'armes qui est important. Donc les coachs français ont cette capacité d'avoir de très très bons résultats, et soyons-en fiers.
Dans tous les sports, on a cet églotisme d'aller forcément chercher des coachs à droite, à gauche,
qui sont surcotés souvent.
Effectivement, ça fait plaisir.
Mais je ne sais pas si vous avez entendu le discours d'après-match de Genesio, il est formidable. Le recul qu'il a, ce qu'il dit, avec l'humilité qui est la sienne, c'est assez incroyable.
Et Margot Dumont, tu lui poses des questions, on peut parler tactique avec un grand sourire, évidemment.
C'était super, et c'était tellement différent de l'autre.
C'est vrai. Ok.